Chapitre 25. Mademoiselle de Puylaurens avait exigé que, pour fixer la date du mariage, on ne tînt compte que des délais imposés par la loi et non de sa maladie. Si elle était guérie, elle assisterait à la cérémonie. Si elle ne l'était point, elle resterait dans sa chambre. Si elle était morte, le mariage aurait lieu quand même à la date convenue. Sur ce dernier point, elle avait tenu à un engagement formel, à une promesse solennelle de Geneviève et de Faré, en donnant à celui-ci les raisons pour lesquelles il fallait que leur mariage ne fût pas retardé, même d'une heure. Bien que Faré arrivât dans des conditions difficiles, ou peut-être parce qu'il arrivait dans ces conditions, il avait su lui plaire, et tout de suite, il lui avait inspiré des sentiments de confiance et de sympathie. Aussi s'était-elle expliquée franchement avec lui sur le compte de M. de Mussidan. « Vous avez tout à craindre de lui, vous n'avez rien à en espérer. » Si je mourais avant le mariage, il serait homme à revenir sur son consentement donné, soit pour vous le refuser, soit pour vous le vendre très cher. Heureusement, rien ne faisait craindre qu'elle dût mourir de sa fluxion de poitrine, qui, comme celle qu'elle avait déjà eue, avait été assez bénigne et suivait une marche régulière, sans fâcheuses complications. C'est un fameux médicament que la satisfaction morale, disait le docteur Azéma en constatant l'amélioration qui se produisait entre ses visites. Cependant, cette satisfaction n'était point complète pour Mademoiselle de Puylaurens. Assurément, elle était heureuse d'arracher Geneviève à son père, et puisqu'elle était contrainte d'accepter un mari autre que celui qu'elle voulait tout d'abord, elle était heureuse aussi que ce mari imposé eût les qualités qu'elle reconnaissait à Faré. Mais, d'autre part, la célébration même du mariage serait pour elle une source de contrariété qui, à l'avance, l'affectait vivement. Ainsi, elle allait être obligée non seulement de se trouver en face de M. de Mussidan, mais encore de le recevoir chez elle, et la pensée seule de ce contact l'enfiévrait. Que serait la réalité quand elle devrait lui parler, l'écouter? En même temps, il lui faudrait recevoir aussi Mme de Mussidan et Mme Faré. Car elle ne pouvait pas imposer à ses enfants le sacrifice de se marier sans leurs parents. Sans doute, il n'y avait aucune comparaison à établir entre l'horreur que lui inspirait M. de Mussidan et l'ennui que lui causeraient ses deux mères. Mais enfin, que son sentiment fût juste ou non, qu'il fût ou ne fût pas engendré par l'orgueil, il n'en était pas moins vrai qu'elle aurait voulu ne pas les connaître. C'était là pour elle un réel tourment dont elle se plaignait sans cesse, non à Geneviève ni à Faré, mais à ses confidents ordinaires, le médecin et le curé. Pourquoi ne logeriez-vous pas vos hôtes dans la maison de Guillaume de Puylaurens, comme vous y avez logé le fiancé? Dit celui-ci. Monsieur de Mussidan, il me semble, ne pourrait être qu'honoré d'habiter la maison de son ancêtre, et si, le jour du mariage, vous n'êtes pas assez bien pour recevoir, vous serez dispensé de sa visite. Vous me sauvez, mon cher doyen! Les invitations à monsieur et madame de Mussidan, ainsi qu'à madame Faré, étaient parties. Mademoiselle de Puylaurens n'eut plus d'ennui qu'à propos que celle que Geneviève aurait voulu qu'on adressât à ses deux frères et à Clara. Mais sur ce point, rien ne put la fléchir. Que je les laisse revenir ici, dit-elle avec une franchise qu'elle ne pouvait montrer quand il s'agissait de monsieur de Mussidan, et ils n'en sortiront plus. Ils me harcèleront du matin au soir et me tueront. Devant ce reçu formel, Geneviève n'avait pu qu'écrire à ses frères et à sa belle-sœur pour s'excuser ce qu'elle avait fait affectueusement. Les choses étant ainsi arrangées, mademoiselle de Puylaurens n'avait plus eu à s'occuper que de la toilette de Geneviève et du déjeuner qu'elle offrirait à ses invités. Comme il paraissait à peu près certain qu'elle ne pourrait pas quitter sa chambre le jour du mariage et que d'ailleurs le moyen d'éviter M. de Mussidan que lui avait proposé le curé pesait inconsciemment sur ses résolutions, il avait été décidé que ce serait dans la grande salle de la maison de Guillaume de Puylaurens qu'on servirait ce déjeuner. Pour la toilette, pressée par le temps, elle s'était adressée à la couturière de Toulouse qui avait déjà habillé Geneviève pour lui commander la robe de mariée et les toilettes de voyage. « Ce ne sera peut-être pas la perfection d'élégance d'une grande couturière parisienne, avait-elle dit à sa nièce, mais les dentelles que j'ai à te donner couvriront tout. » Et elle lui avait offert pour son voile et sa robe un vrai trésor en vieux point d'Alençon pieusement gardée depuis de longues années, car elle n'était pas femme à porter ses dentelles, mademoiselle de Puylaurens. En même temps qu'elle faisait ouvrir ses coffres par Geneviève, elle en faisait tirer aussi ses écrins, ou plutôt ceux dont elle avait hérité, car elle n'avait jamais acheté ni jamais mis un bijou. Et il y avait là, en pierreries, une fortune. Elle gardait le plus qu'elle pouvait Geneviève effarée dans sa chambre pour les faire parler et surtout pour apprendre à connaître celui à qui elle donnait sa nièce. Et dans ces entretiens, on avait agité la question du voyage de noces. Où se ferait-il ? L'Espagne avait été choisie. Et cela à la grande satisfaction de mademoiselle de Puylaurens qui voyait Geneviève et son mari partir pour Toulouse, tandis que M. de Mussidan et les mères partaient pour Paris. « Puisque j'ai poussé à l'Espagne, dit-elle, il est juste que je me charge de vos frais de voyage. Voici votre bourse, mes enfants. Je voulais y mettre 25 000 francs, mais je me trouve un peu gênée et je les partage par moitié entre vous et les pauvres. Vous me reviendrez plus tôt, voilà tout. » Geneviève avait fait un signe affaré, tandis que, de son côté, il lui faisait le même. « Eh bien, qu'avez-vous donc ? » avait demandé mademoiselle de Puylaurens. C'est que, répondit Geneviève avec un sourire de confusion, je ne sais plus comment vous exprimer ma reconnaissance. Je lui disais de trouver des mots et lui me le disait en même temps. Ce n'était pas seulement du bonheur de ses enfants que mademoiselle de Puylaurens avait souci. Elle n'oubliait personne. C'était la croyance du pays que l'archevêque viendrait bénir le mariage et le curé en était malade. Préparez-vous votre allocution, monsieur le doyen, lui demanda un jour mademoiselle de Puylaurens. C'est donc moi qui les marie ? Vous me connaissez bien mal si vous avez pu croire sérieusement que je ferais cette injure à notre amitié. Il approchait le jour du mariage. On y touchait. Monsieur et madame de Mussidan devaient arriver la veille seulement avec madame Faré. Mais le matin de ce jour, on reçut une dépêche de celle-ci annonçant qu'à son grand regret, elle n'était pas en état d'entreprendre ce voyage, mais qu'à l'heure de la cérémonie, elle assisterait à la messe dans l'église de Montmartre et prierait pour ses enfants. Ce fut un soulagement pour mademoiselle de Puylaurens, mais en même temps un attendrissement. « Pauvre brave femme de mère !» se dit-elle, et elle se reprocha son orgueil. À la fin du déjeuner, conservé dans la chambre de mademoiselle de Puylaurens, Buvard remit à Faré une lettre qu'on venait d'apporter, et celui-ci, en la lisant, laissa échapper un mouvement de surprise. Puis, aussitôt qu'on se leva de table, il annonça qu'il avait besoin d'aller à Cordes. Il y avait à peine une heure qu'il était parti, quand Adélaïde, entrant, fit un signe furtif à Geneviève pour lui demander de sortir. « C'est une dame qui veut parler à mademoiselle. Elle est dans le salon bleu. » Geneviève était surprise. Mais elle le fut bien plus quand, dans cette dame, elle reconnut sa belle-sœur Clara, éplorée, affolée. « Oui, moi !» s'écria la vicomtesse. « Moi qui me cache dans cette maison. Mais je ne viens pas te reprocher ton habileté. Tu as réussi, c'est bien. Je viens pour que tu nous sauves, ma petite sœur. » Une histoire terrible. Sébastien avait eu l'imprudence de signer des billets d'un nom qui n'était pas tout à fait le sien. Si elle ne lui reportait pas 10 000 francs, il était perdu. Elle venait les demander à Geneviève. Je ne les ai pas. Tu as les bijoux de notre tante, confie-les-moi. Je ferai remplacer quelques perles par des fausses, personne ne s'en apercevra. Jamais. Laisseras-tu déshonorer ton frère ? Je n'aurais pas cru que la fortune devait te sécher le cœur. Geneviève pensa à la bourse de voyage que sa tante lui avait donnée et qu'elle avait serrée dans sa chambre. « Je reviens, » dit-elle. Mais dans le vestibule, elle rencontra Faré. « C'est un bonheur de vous trouver, » dit celui-ci. « Voulez-vous me permettre de disposer de la bourse de voyage que votre tante vous a donnée ? J'en aurai besoin pour venir en aide à votre frère Frédéric. » Enfin, et après avoir longtemps couru après la fortune, c'est-à-dire après la fondation d'un cercle, Frédéric était à la veille de voir ses espérances réalisées. Un cercle splendide rue Royale qui lui ferait gagner plus de 300 000 francs par an. Il avait pour président un ancien ministre, pour vice-président un député, pour secrétaire un journaliste influent, il ne lui manquait que 20 000 francs pour son premier apport. Alors, à son tour, elle lui raconta la fâcheuse affaire de Sébastien et ils décidèrent de partager la bourse entre eux par moitié. Clara fut furieuse et Frédéric ne cacha pas à son beau-frère le mépris qu'une pareille lésinerie lui inspirait. Quand M. de Mussidan arriva le soir avec sa femme et avec Lutan, qui devait être un des témoins de Faré, il voulut bien prendre pour une attention l'arrangement qui le faisait habiter la maison de Guillaume depuis Laurence. « Et puis, je ne suis pas fâché de ne pas voir cette vieille folle, » dit-il tout bas à Faré. Le lendemain, pendant la cérémonie, il fut superbe dans l'élégante toilette qu'il avait commandée pour cette circonstance, celle même de son portrait de Dubuff. On n'avait jamais vu à Cordes un père aussi décoratif. Après le mariage, il fit à ses invités les honneurs de sa maison avec une bonne grâce parfaite. Entraîné dans les histoires de sa gloire, il ne s'aperçut même pas que sa femme, sa fille et son gendre quittaient la table, car Mademoiselle de Puylaurens, qui n'avait pas voulu qu'à son bonheur se mêlât un remords, avait dit à Geneviève de lui amener sa mère. En se trouvant seule en wagon dans les bras de son mari, Geneviève souriante lui dit « Où allons-nous ?»« À Toulouse. » « Et puis après, maintenant que nous n'avons plus notre bourse de voyage ?» Je vais me faire envoyer de l'argent. J'ai une idée. C'est la mienne, alors. Si, au lieu d'aller en Espagne, nous allions tout simplement à Saint-Firmin, qui est un petit village de la forêt de Chantilly, où mon père m'a mené une fois. Nous pourrions prendre votre mère et la mienne avec nous. Elle serait si heureuse. Et nous nous promènerions seuls toute la journée dans la forêt. Un long baiser fut sa réponse. Et notre tante, dit Faré. Ah, notre tante, elle est si bonne qu'elle passe sa vie à accepter ce qu'elle ne voulait pas. Le lendemain, au lieu de prendre la route d'Espagne, ils prirent celle de Paris. Au moment de monter en wagon, Faré acheta un journal, ce qui fit faire la moue à Geneviève. Simplement pour voir le temps qu'il fait à Paris, dit-il, si les théâtres sont pleins ou s'ils sont vides. Mais ceux dont le nom est souvent cité dans les journaux ont un œil spécial pour le trouver, où qu'il soit. À peine Faré avait-il ouvert son journal. « Tiens, » dit-il, en mettant le doigt sur un article pour le montrer à sa femme. « On parle de notre mariage. Et, juste retour des choses d'ici-bas, on l'annonce dans la forme ridicule que j'employais pour annoncer celui des autres. » Fin du roman « La petite sœur ».